On connaît par cœur cet évangile, bien sûr. Ça fait des années que vous l'entendez. Il est tout simple. Il est efficace. Ça, c'est la marque de Marc. Saint Marc a écrit un évangile pour les catéchistes. Quelque chose de... une parole qui est simple et très efficace. Il faut le sentir dès le début, ça. Vous voyez, on a des images toutes simples, on peut se figurer assez facilement ce qui se passe. Il faut être attentif aux détails toutefois. Donc ils viennent de parler toute la journée, Jésus vient de parler. Ça veut dire qu'il est fatigué, il monte dans la barque et il dort. On a tendance à oublier une chose, c'est qu'il y avait plusieurs barques. Je ne sais pas si vous avez oublié, vu ce tout petit détail au début de l'évangile. Il y a plusieurs barques, elle n'est pas seule. Et puis, la tempête arrive et les apôtres vivent la tempête comme la fin de leur jour. Alors eux, du point de vue émotionnel, ils ont un peu de mal à être stables. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais ils vont paniquer à cause de la tempête et ensuite ils vont être quasiment dans la panique en constatant que Jésus maîtrise les flots. À la fin, ils ont dû être vraiment fatigués, je pense. Ils n'arrêtent pas d'être paniqués, ils montent, ils descendent sans cesse, en émotion. Puis il y a la tempête, qui toutefois, chers frères et sœurs, est une chose assez normale. Pour un marin, la tempête, c'est un truc normal. Or, à bord de la barque, il n'y a quasiment que des marins. C'est pour ça que c'est un petit peu étonnant qu'ils s'affolent comme ça. Je dis ça parce que vous voyez bien que c'est une analogie, la mer. C'est les circonstances qui sont opposées à l'action de Dieu. La mer, elle représente la mort pour les Juifs. Parce que tout simplement, on ne respire pas dans l'eau. Et on ne sait pas ce qui se passe en dessous. On n'a pas de contrôle. La barque, évidemment, c'est l'Église. Je dis évidemment parce que vous l'avez entendu ce commentaire 20 milliards de fois. Et Jésus... où est-ce qu'il est dans la barque? Vous avez remarqué? C'est le seul évangéliste qui raconte ce détail. Il est sur le coussin. Et vous savez où est-ce qu'il est, le coussin? Tous ceux qui ont fait du bateau le savent. À l'arrière. Là où on barre. Ben oui, parce que le barreur est censé rester longtemps à la barre. Et ça fait mal aux fesses. Donc il y a un coussin. C'est donc le signe que Jésus barre. Des petites choses, mais qui sont importantes pour comprendre ce qui se passe. Donc la tempête, une situation habituelle, comme la tempête de nos existences, qu'on prend souvent comme des situations inhabituelles. À chaque fois qu'on est dans une tempête, que ce soit une tempête personnelle, une tempête familiale, une tempête nationale ou une tempête internationale, on s'imagine toujours que c'est la fin du monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors bien sûr, il y en a dont c'est le métier qui, pour avoir plus d'argent, vont augmenter, exagérer et surtout pas nous rappeler que des tempêtes, il y en a eu toujours et il y en aura toujours. Des tempêtes politiques, il y en a eu et il y en aura encore. Rien de nouveau sous le soleil. Mais on a l'impression que ça n'a jamais existé avant. Et du coup, on entre en panique, on entre en angoisse et on pense qu'on va mourir. C'est là où ils en sont, les apôtres. Peut-être que certaines fois, nous aussi, nous sommes angoissés et nous pensons que ça va mal se terminer. J'ai une idole, figurez-vous. J'ai plusieurs idoles, mais je vais vous en faire découvrir une. Il s'appelle Éric Tabarly. Alors, les plus vieux d'entre vous le connaissent peut-être. Maintenant qu'on commence à vieillir sérieusement. Éric Tabarly, c'est un type que j'aime énormément. Un de ceux qui a fait que la voile française est devenue ce qu'elle est devenue. Un marin chevronné, le premier qui a gagné la traversée de l'Atlantique sur un bateau formidable. Je vous passe les détails, je ne vais pas vous raconter sa vie, je ne suis pas là pour ça. Mais quand il y avait des tempêtes, Éric Tabarly avait un truc. Et il faisait toujours la même chose. Tempête. Je rentre dans mon sac de couchage, je ferme les écoutilles et j'attends. Voilà la technique d'Éric Tabarly. Intéressant ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il accepte de plus mettre la main sur les éléments et qu'il accepte d'avoir confiance dans son bateau et qu'il accepte que cette tempête, elle est de passage et qu'il ne sait pas ce qui va se passer ni comment ça va se passer, mais ça va se passer. Vous voyez ? Et c'est ce que dit le Seigneur après avoir calmé les flots. Vous vous rendez bien compte que le Seigneur, évidemment, il maîtrise la nature. Ça, c'est le message aussi que le Seigneur voudrait nous... Si je maîtrise les flots, tu comprends bien que je peux maîtriser les événements de ta vie. Si je maîtrise les flots, tu comprends bien que je peux maîtriser les événements politiques d'une nation. Je peux, moi aussi, être à la manœuvre, dit Jésus. Alors une fois qu'il a rétabli la paix, parce qu'on n'imagine pas que les apôtres puissent entendre, que les disciples puissent entendre quelque chose dans une situation dramatique, qu'est-ce qu'il leur dit ? Il vous manque la foi. Moi, franchement, les amis, j'en ai vécu deux ou trois des tempêtes. Jésus me dit ça, je le passe par-dessus bord. Parce qu'il est gentil, mais enfin la tempête, vous savez, c'est un truc qui est sérieux, la tempête. Alors tu manques de foi, c'est pas à ce moment-là qu'on a besoin que quelqu'un nous fasse la morale, vous voyez. Pourtant, si on y réfléchit bien, Jésus était dans la barque. Et les disciples le savaient. Qu'est-ce qui leur a manqué ? Pour avoir à réveiller Jésus. Ce qui leur a manqué, c'est une relation habituelle avec Jésus. C'est qu'en fait, Jésus, fondamentalement, dans leur âme, était comme endormi. Et qu'est-ce qui endort Jésus dans nos âmes, d'une certaine façon, vous voyez ? Qu'est-ce qui nous donne l'impression qu'il n'est pas au courant de nos existences ? Qu'est-ce qui nous donne l'impression que Jésus ne nous parle pas, est indifférent à ce qu'on vit et ne nous guide pas, contrairement à ce que dit le psaume ou la deuxième lecture. Ben, c'est qu'en fait, on ne le fréquente pas assez. On va bien à la messe le dimanche, ça, ouais, ok, on fait le minimum, minimum, minimum. Mais comme on est encore angoissé après, comme on a peur encore après, ben c'est peut-être, chers frères et sœurs, qu'on ne fréquente pas assez Jésus, qu'on n'ouvre pas assez les Écritures, qu'on l'adore pas assez dans le Saint-Sacrement de l'autel, qu'on ne dit pas assez le chapelet, qu'on ne se confie pas assez à la Vierge Marie. Qui d'entre nous a une lecture spirituelle solide, en cours, mis à part les bonnes sœurs ? Vous voyez, la lecture spirituelle, l'avantage d'une bonne lecture spirituelle, c'est que ça nous invite notre intelligence à une sorte de progression. Ça invite notre intelligence à poser des actes de foi. Quand on lit une belle vérité dans un ouvrage qui dit des choses justes, du coup, on a envie de connaître la source. On a envie de connaître l'objet de cette idée. On a envie de connaître Jésus. On a envie d'être en relation, vous voyez ? Il me semble que souvent, Jésus est quelque part comme endormi dans notre cœur, dans notre âme, mais parce que finalement, on est un peu mou, vous voyez, on est un peu absent, on fonctionne comme si Jésus n'était pas là. Un peu ce que vivent les disciples. Alors comment est-ce qu'on le réveille ? Eh bien, comme je viens de vous dire, par la lecture des Écritures, par la confession, par une lecture spirituelle. Autre chose encore, vous avez vu que Jésus, une fois qu'il est réveillé, il est extrêmement actif. c'est pas les apôtres qui agissent, c'est Jésus qui agissent. On aurait pu peut-être, moi quand j'étais sur un bateau et que j'avais des gens, une dizaine de personnes sur le bateau était assez grand, quand ça n'allait pas ou quand les choses étaient... Je commandais, je disais à Alain, va border la grand voile, va choquer le foc, va faire ceci, va faire cela. Toi, fais surtout rien, accroche-toi et bouge plus. Passe d'un côté, passe de l'autre. Toi, arrête de pleurer parce que ça ne changera rien. Toi, au contraire, tu étais énervé pendant toute la traversée. Maintenant, tu vas aller à l'avant et tu vas changer la voile et vite. On s'attend à ce que Jésus donne des commandements comme ça, à ce qu'il nous pousse dans l'action. Eh ben non, Jésus est le premier agent. C'est Jésus qui fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on fasse, mais c'est Jésus qui fait, vous voyez. C'est Jésus qui maîtrise les flots. On est dans la pédagogie avec Jésus à un moment où les apôtres sont en train d'apprendre beaucoup de choses. Ils n'ont pas encore compris que comme Jésus, ils seront eux aussi invités à maîtriser les flots. Pour l'instant, ils regardent le maître faire. Et pour l'instant, ils sont choqués. Ils sont dans la crainte. Mais vous voyez, chers frères et sœurs, bien souvent, quand on est dans la crainte ou quand on est choqué, comme ça, on pense qu'on est dans une impasse. C'est un mensonge. Il n'y a pas d'impasse. Quand dans votre tête, dans votre cœur, vous vous dites « je suis dans une impasse », c'est un mensonge. Quand vous vous dites « je suis dans une impasse professionnelle, j'arrive pas à trouver de boulot », au contraire, j'ai des problèmes avec mon patron. J'arrive pas à gérer telle situation. Au contraire, avec votre épouse, peut-être qu'il y a un moment qui est difficile, ou avec votre époux. Ah, je savais pas, mon père, que le mariage, c'était parfois difficile. Ben oui, rien de nouveau sous le soleil. La tempête existe partout, tout le temps. Mais elle a une vertu, la tempête, extraordinaire. C'est qu'elle nous force à vivre unis à Jésus. Parce que tu peux pas t'en sortir indemne si tu n'es pas uni à Jésus. Vous voyez, elle a une vertu, la tempête, en fait. Une très, très bonne vertu. Vous allez me dire, quand on est dedans, ce n'est pas drôle. Ouais. Mais quand le calme est revenu et que tu sais que Jésus, c'est à Jésus que tu dois de t'en être sorti, ta relation avec Jésus, elle est encore plus forte. Elle est encore plus puissante. Elle est encore plus belle. Dieu ne veut pas la mort et Dieu ne veut pas ce qui s'oppose à lui. Vous voyez, d'une certaine façon, Dieu ne veut pas la mer déchaînée, il ne veut pas le mal. Bien sûr que non, il ne le veut pas. Mais à cause de notre liberté, il est là, la tempête est là. Alors Dieu s'en sert, vous voyez. Dieu se sert de la tempête, il nous tient très fermement, et il est là. Et si nous voulons traverser ces événements, j'allais dire d'une façon consciente et d'une façon apaisée, redécouvrons qu'il est présent, redécouvrons à travers les lectures spirituelles, à travers l'écriture, à travers un surcroît de prières. Vous savez, quand Ignace de Loyola, quand il y a une désolation, une situation de désolation, particulièrement désolation sans cause, où on ne sait pas comment, pourquoi cette tempête est arrivée, parce qu'on veut tout essayer de maîtriser. Ce que recommande Ignace de Loyola, c'est deux choses. Un, on ne change pas de cap. Et deux, on augmente la pénitence. On augmente ce qui nous relie, ce qui va nous permettre d'être reliés à Dieu. Si vous le voulez bien, demandons à la Sainte Vierge. On ne sait pas si elle était dans la barque, la Sainte Vierge. Hein. Mais demandons à la Sainte Vierge qui est là avec nous, dans notre barque, et ben de nous apprendre à vivre avec Jésus, avec le ressuscité. Demandons à la Sainte Vierge de vivre dans cette paix au milieu de la tempête, parce que je pense que nous, les chrétiens, nous pouvons faire cela. Nous pouvons à la fois être en paix et dans la tempête. Demandons à la Sainte Vierge vraiment de nous garder unis à son Fils. Amen.